Richard au micro, Guy est à la technique, vous êtes sur Radio Grand Ciel et pour cette émission Éducation aux questions, je reçois aujourd'hui Madame Le Quertier qui était professeure dans l'enseignement technique au lycée Violette, mais qui a fait tout un travail sur l'enseignement technique. Bonjour Marie-Thérèse, merci d'être à Radio Grand Ciel pour cette émission Éducation aux questions. Donc, parlez-nous un peu des débuts de l'enseignement technique à Dreux, puisqu'en fait, c'était ça l'objet de votre étude.
Alors, l'enseignement technique a démarré déjà au Collège Rotrou avec une EPS professionnelle bois, fer, électricité en 1910. Alors, c'était EPS, pour les garçons, école primaire supérieure.
Voilà.
À caractère professionnel en l'occurrence.
Et c'était surtout pour les garçons, bien
c'était
sûr.
C'était pour les garçons uniquement. Mais Maurice Violette s'intéressait beaucoup au sort des femmes et il a voulu aussi développer une formation plutôt ménagère pour toutes les jeunes filles et jeunes femmes de la région de Dreux.
Oui, en fait, ça correspondait aux usages des femmes à l'époque. Elles étaient intendantes dans leur maison, donc il fallait qu'elles sachent faire un certain nombre de choses et coudre aussi.
Mais l'enseignement
ménager
était prévu depuis Jules Ferry et même bien avant dans toutes les écoles. C'était l'enseignement ménager global, aussi bien l'entretien de la maison que l'entretien du linge, que la couture, que la cuisine. Mais en général, on ne faisait que des cours de couture. Violette a voulu que l'enseignement soit beaucoup plus généralisé et il a eu plusieurs idées successives. Et la dernière, ça a été d'ouvrir une école ménagère dans des locaux de l'ancien hôpital, 15 rue Maurice Violette, qui se trouvait libéré par le transfert de cet hôpital dans la rue Saint-Denis.
Voilà, donc quand l'hôpital du centre-ville va rue Saint-Denis, avenue de la Gare en fait.
Oui, entre la rue Saint-Denis et le boulevard Louis Carrier, tous les locaux se trouvent libérés et il envisage d'y installer toutes sortes de services municipaux et en particulier une école ménagère. Mais il prévoit très peu de place pour cette école ménagère. Il prévoit au fond le rez-de-chaussée du petit bâtiment Louis XIII qui sert d'office de tourisme à l'heure actuelle. Au premier étage,
il y avait la cuisine d'ailleurs.
Il y avait une cuisine.
Une cuisine technique
oui, ça
dans
sera
les années 60 encore.
Voilà, ça sera toujours la même affectation au cours des années. Au premier étage, il avait prévu une salle pour les archives municipales et une salle pour un patronage de jeunes filles, un petit patronage de filles. Très vite, il se rend compte que c'est quand même vraiment insuffisant. Et donc, il demande à l'architecte de la ville de l'époque, Georges Bonnier, de refaire un plan dans lequel, au rez-de-chaussée, il y aurait le bureau de la directrice, un petit parloir, un petit réfectoire et la cuisine de l'enseignement ménager. Enfin, cuisine affectée éventuellement au blanchissage. Et au premier, il y aurait une grande salle de couture et à côté, une salle de coupe et de dessin. Et c'est ce qui va se passer en 1914-1915. L'école fonctionne dans ces locaux-là.
Oui, coupe, couture, ça correspondait exactement au métier des filles de cette époque.
Absolument. Mais en fait, il est amené à faire une école du type école pratique de commerce et d'industrie, voire ménagère, voire hôtelière, voire beaucoup d'affectations, parce qu'il n'y a que ce type de classe qui existe en France depuis 1892.
Donc l'enseignement technique pour les filles, finalement, c'était quand même très limité à ce qui correspondait aux tâches des femmes.
Oui, à ce moment-là, oui. Et l'école qu'il va ouvrir à Dreux est la 13e en France. Et non pas,
La première. C'est vrai que quelquefois, se disait ça, on était très fiers. Bon, eh bien, finalement, on était quand même dans les premières.
Tout à fait.
Si j'ose dire.
Mais c'est une école de type école pratique. Car alors, c'est géré par des statuts très précis depuis 1892.
Alors, dites-nous un peu ce que ça veut dire école pratique. Parce que derrière le pratique, les statuts, en fait, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se cache derrière cette formulation?
Au départ, c'est une école qui prolonge la scolarité après le certificat d'études, qui donne un complément d'enseignement général pour pas mal d'heures malgré tout, et une formation vraiment professionnelle éventuellement, ou simplement une formation ménagère pour la femme qui ne voudra pas travailler.
D'accord, mais nous sommes en 1910 et il va y avoir la Première Guerre mondiale.
C'est-à-dire que la municipalité décide de créer cette école ménagère en un premier temps en 1913.
Oui, donc à la veille du conflit.
Et cette école, obligatoirement aussi, dépendra du ministère du Commerce et de l'Industrie. Parce que ça avait été une bagarre entre le ministère de l'Instruction publique et le ministère de l'Industrie, agriculture, commerce, colonie, enfin c'est un ministère qui a changé de nom très souvent. En tout cas, c'était la bagarre entre l'Instruction publique et le Commerce et l'Industrie de gérer, de surveiller, de soutenir un peu les écoles professionnelles qui s'étaient ouvertes un petit peu partout en France. Et en 1892, c'est quand même vraiment le Commerce et l'Industrie qui va chapeauter pratiquement tout l'enseignement technique en France. Et c'est eux qui ont établi, il y a des lois, il y a des décrets d'application, tout est prévu, le fonctionnement de l'école, les programmes, les grandes lignes des programmes. Et il y a de l'enseignement général et de l'enseignement pratique, professionnel éventuellement. Mais Maurice Violette n'est pas tellement, c'est très curieux, n'est pas très chaud pour l'enseignement professionnel dans une école. En 2014, il serait plutôt pour les CFA que pour les LEP, pour les LP. Et donc, il donne comme consigne de ne faire que de l'enseignement professionnel.
Voilà, donc là, c'est clair, enseignement professionnel.
Pratique uniquement. Et c'est des consignes qu'il donne.
Oui, il y a l'enseignement général qui se fait ailleurs ou qui s'est fait avant.
Oui, oui, donc, il pense que ce n'est pas utile. À ce moment-là, il pense que ce n'est pas utile. Et donc, il fait les démarches nécessaires. Il en parle au comité départemental de l'enseignement technique qui a été créé en 1911. Et donc, le ministère, par un décret du 10 mai et un arrêté du 23 juillet 1914, crée à Dreux une école pratique ménagère et d'industrie. D'industrie, c'est l'industrie du vêtement. Enfin, c'est professionnel, disons. Et alors, l'arrêté du 29 juillet 1914 nomme une directrice qui s'appelle Mademoiselle Bunel, qui a à peu près 45 ans. Elle a été professeure à l'école pratique de Rouen, qui est plus ancienne que, bien entendu, que celle de Dreux. Elle a réussi le concours d'aptitude à la direction des écoles pratiques de France. Et elle est donc nommée... Elle débarque à Dreux. Mais la guerre éclate le 3 août.
Oui, c'est ça,
1914.
J'allais dire 29 juillet. Oui.
Et de toute façon, rien n'est prêt à Dreux. Parce qu'il faut adapter les programmes officiels, ou choisir dans les programmes officiels ce qui est utile, et se contenter de faire de la pratique uniquement, puisque c'est le souhait de Violette. Et il faut acheter du mobilier, du matériel professionnel, il faut s'assurer du recrutement des professeurs et s'assurer du recrutement des élèves. Les élèves ne connaissant pas du tout, personne ne connaît cet enseignement.
Oui, c'est ça, parce qu'en fait, trouver des familles qui acceptent d'envoyer les enfants dans une structure qui n'existait pas auparavant. Ou qui n'existait que pour les garçons.
Oui, et qui existait très peu dans l'ouest de la France, en tout cas. Sur Paris, il y avait des écoles, en particulier les écoles professionnelles de la ville de Paris, telles que Boulle, Estienne, etc., existaient déjà et étaient un peu assimilées à ces écoles pratiques.
Eh bien, nous allons faire une pause musicale avant de poursuivre. Nous sommes toujours dans l'émission Éducation en question avec Marie-Thérèse Lecartier et nous évoquions les débuts de l'enseignement technique à Dreux. Donc l'école pratique a été créée pendant la Première Guerre mondiale puisqu'elle est créée par décret du 29 juillet. La guerre éclate le 3 août. Donc comment ça se passe? Il faut recruter des professeurs mais aussi des élèves. Parlez-nous un peu de ces recrutements.
Alors, le recrutement des élèves est de trois natures. Il y aura des élèves à temps plein pour préparer une profession du vêtement.
Elles seront internes dans ce cas?
Au départ, non. La première année, il n'y aura pas du tout d'internes. Il y aura très peu d'internes la seconde année. Il y aura les grands élèves du cours complémentaire et les grands élèves du collège secondaire qui viendront pour l'économie domestique et la cuisine, la couture. Et il y aura des jeunes femmes ou des jeunes filles, femmes ou filles de commerçants de Dreux, qui viendront aussi pour des cours, soit des modules de 3 mois, par exemple, à temps complet, soit toute une année, quelques heures par semaine.
Donc il y avait une certaine souplesse dans cette organisation.
Il y avait une énorme souplesse qui va d'ailleurs perdurer jusque vers les années 1950 ou 60, où l'école accueille quelquefois des élèves qui préparent un concours à l'école d'infirmières, qui ont le bac par exemple, ou qui ont un brevet et qui vont préparer vraiment une entrée dans une école autre. C'est très souple, oui. Et alors donc, la première année, ça sera l'année 1915. L'ouverture aura lieu vraisemblablement le 17 octobre 1915 avec une section industrielle, avec l'industrie. Il faut des professeurs. Donc le ministère nomme un professeur technique de couture et de coupe qui sert de chef de travaux, bien qu'elle n'ayant qu'une personne sous ses ordres à ce moment-là, et une maîtresse de sciences appliquées qui est très dynamique et qui enseigne au fond un peu les sciences pures avec les applications dans la vie de tous les jours. Et sont recrutés comme employés municipaux, employés municipales, puisque ce sont des femmes, une maîtresse de broderie qui s'appelle Madame Tessier et qui serait la belle-sœur de Maurice Violette, qui a fait les Beaux-Arts et qui enseigne pendant une année aussi le dessin. Il y a une maîtresse de blanchiment, qui est une dame déjà d'un certain âge et qui était artisane à Dreux. Et il y a une femme de service qui s'appelle Madame Noël et le mari de la maîtresse de blanchiment, Madame Corbon, c'est Monsieur Corbon, il s'occupe des chaudières. Parce qu'il faut des chaudières pour chauffer.
Pour chauffer les élèves.
Et aussi le linge.
Et les
fers à repasser, bien entendu.
Ah oui, bien sûr. On est dans les fers à repasser qu'on met sur le feu et toute une organisation.
Oui. Les élèves de l'école, à la rentrée d'octobre 1915, sont au nombre de 4.
Elles ont beaucoup de professeurs pour elles, 4.
Hein. Oui.
Très encadrées.
Ce sont les élèves à temps complet, disons. Mais il y a aussi donc, les élèves du cours complémentaire, mais on ne sait pas combien, et les élèves
et
du
collège. Et puis
les
gens qui viennent de l'extérieur, voilà. On ne sait pas non plus.
Au 1er janvier, les élèves à temps complet sont au nombre de 23.
Ah oui, quand même, ils ont fait voilà. Des petits. Hein.
Donc, Madame Bunel, je ne sais pas si c'était avec l'idée de Maurice Violette, mais enfin, elle a l'aval du ministère. Elle a fait une démarche près du sous-préfet, pour obtenir l'ouverture d'une section commerciale.
Ah oui, tout de suite.
Alors, la section commerciale, effectivement, ouvrira dès le 1er octobre 1916. Et là, il y a 6 élèves.
Plus les 23, donc finalement, c'est pas...
Peut-être plus que 23, mais enfin, il y a les 6 élèves. On ne sait pas trop les effectifs. Je vous expliquerai plus tard les difficultés d'établir les effectifs. Mais alors, les 6 élèves de commerce, il leur faut une salle et il leur faut un dortoir, car elles ne sont pas originaires de Dreux. Donc, la ville récupère une maison qui est dans la rue que nous appelons maintenant Ernest Renan pour, au rez-de-chaussée, y établir une salle de commerce et, à l'étage, un petit dortoir de 6 élèves. Ce dortoir ira jusqu'à 34 pensionnaires. C'était pas très confortable du tout, du tout. Mais il faut des professeurs nouveaux. Donc le ministère nomme un professeur de commerce qui est déjà d'un certain âge et très aguerrie parce qu'elle a été à l'école pratique de Reims et elle a été à l'école pratique de Rouen. Et elle nomme également un professeur de dessin qui sort des Beaux-Arts. Et le professeur technique chef de travaux change. Elle s'appelle Mademoiselle Rib, elle est très efficace. Et il faut aussi un professeur d'anglais pour 4 heures d'anglais.
Oui, je trouve ça étonnant, parce que alors qu'aujourd'hui on a ce débat autour des langues, déjà là, 1916, un professeur d'anglais.
Alors ce professeur d'anglais qui s'appelle Madame Boulan, elle est épouse de l'inspecteur primaire et elle est licenciée en anglais. Et elle assure de l'enseignement de l'anglais dans les différentes écoles de Dreux. Elle assure de l'anglais au collège Rotrou, au collège secondaire de filles. Et cette année-là, elle fait 4 heures d'anglais, mais l'année suivante, il y aura 8 heures, puisqu'il y aura deux années.
Deux niveaux.
Elle assurera aussi les cours du soir en anglais, jusqu'à leur départ pour Paris, puisque ce monsieur va être nommé inspecteur des écoles de la ville de Paris. Et il faut aussi une surveillante, puisqu'il y a le fameux dortoir. Cette dame, qui s'appelle Madame Girard, assure bien sûr la surveillance des dortoirs, mais aussi les navettes.
Oui, ce que j'allais dire, les navettes entre le... On traversait déjà la place Mézirard.
Absolument. Et cette dame va aussi aider pour l'économat, pour le choix des menus, pour l'achat des denrées, etc. D'ailleurs, elle deviendra économe plus tard. Et elle est très, très, très peu payée, puisque c'est un emploi logé, nourri... Et elle a un traitement absolument dérisoire de la ville de Dreux. Ce sont des employés municipaux, ces personnes-là.
Eh bien, avant de poursuivre, nous allons faire une seconde pause musicale et puis nous écouterons encore la suite de cette histoire qui est bien intéressante. Nous sommes toujours dans l'émission Éducation en question et nous sommes dans les années de la Première Guerre mondiale pour voir comment ce qui deviendra le lycée technique évolue. On a vu la création de cet établissement d'enseignement technique presque en même temps que la Première Guerre, mais il se poursuit, il grandit. Alors qu'en est-il, Marie-Thérèse ?
Alors, la situation en 1917 est assez intéressante parce qu'il y a d'abord la mise en place de ce qui devrait exister depuis toujours, du conseil de perfectionnement, c'est-à-dire un conseil qui a comme président le maire, l'inspecteur d'académie, éventuellement l'inspecteur technique, et il y a des commerçants et des artisans de la ville de Dreux.
C'est-à-dire, en fait, il y a l'éducation et les usagers.
Tout à fait. Et ces personnes, il y a par exemple Madame Durvy qui est libraire à Dreux, il y a Monsieur Vallée qui est pâtissier-confiseur, il y a Madame Olive qui est directrice de confection pour hommes et garçonnets, etc. Et ces personnes-là font le lien entre l'école et les professions. Et ce sont des gens qui sont qui sont un soutien absolument merveilleux pour l'école. Ils infléchissent certains programmes, mais dans un très bon sens. Ils proposent des stages aux élèves, ils donnent des soutiens financiers aux meilleurs élèves, etc. Alors la deuxième chose, c'est qu'à la fin de l'année 1917-1918, il va y avoir les premiers diplômés. Les premiers diplômés, c'est des certificats d'études pratiques dans l'industrie ou dans le commerce. C'est à la base de ce qui sera les brevets d'enseignement industriel et brevets d'enseignement commercial, les BEI et BEC. il y a, les élèves se placent très facilement.
Oui, ce que j'ai posé comme question, est-ce que les élèves qui ont eu cette formation, donc qui ne sont pas passés auprès d'un apprentissage directement chez l'employeur, trouvent du travail? Et oui, c'est oui.
Alors, dans les sections commerciales, les élèves peuvent rentrer dans l'administration avec certains concours, où elles travaillent, l'une est par exemple assistante d'ingénieur à Paris. Elle aide un ingénieur dans son travail. Une autre parle assez l'anglais pour pouvoir travailler en Angleterre. Elle est embauchée en Angleterre, etc. Dans la section industrielle, les élèves restent plutôt chez elles ou bien entrent dans un atelier ou sont couturières à leur compte. Et puis, les salaires sont très, très variables. Pour le commerce, ça peut passer du simple au double. Pour l'industrie, évidemment, pour le vêtement, les salaires sont très, très bas.
Très bas, oui.
Il faut bien le dire. Et il y a le début de cours du soir, et en particulier il y aura un cours de puériculture qui va s'adresser à des jeunes filles, bientôt mariées, à des jeunes mères, et aux institutrices de la ville de Dreux qui retransmettront la bonne parole à leurs élèves dans leurs écoles. Ce cours va durer 3 ans parce que tout le public concerné a été formé et est venu. Alors nous passons ensuite à l'année 1920 qui est très importante pour l'enseignement technique puisque Alexandre Millerand, qui était à ce moment-là président du conseil entre janvier 1920 et septembre 1920, va forcer, en dépit de tous les désirs de tout le monde, il va transférer l'enseignement technique au ministère de l'instruction publique. L'enseignement technique ne sera plus dans le giron du ministère du commerce et de l'industrie, mais dans l'instruction publique. Bien sûr, il y a une direction générale de l'enseignement technique tout à fait à part.
Et qui tiendra compte des professionnels, bien sûr.
Bien entendu. Mais moins que prévu par les professionnels, justement. Alexandre Millerand a eu comme secrétaire Maurice Violette et ils partagent tous les deux les mêmes idées sur le fait que l'enseignement, la formation professionnelle doit être dans le giron de l'instruction publique.
Et donc, ce qui va provoquer peut-être un développement de cet enseignement ?
Alors, effectivement, Maurice Violette s'était rendu compte que ne faire que de l'enseignement pratique était une erreur. Il avait déjà introduit un petit peu d'enseignement général de bric et de broc, mais avec l'entrée dans l'instruction publique, évidemment, l'enseignement général va reprendre peu à peu, très lentement quand même, sa place dans cet enseignement. Et puis, il va y avoir tous les cours, ils ne sont pas appelés professionnels à ce moment-là, mais on les appelle des cours spéciaux, mais ces cours sont très très importants et vont se développer. Il est vrai, ce sont des cours bien sûr de cuisine, de couture, de coupe, de repassage, mais ce sont aussi des cours commerciaux très importants. À raison, quelqu'un peut venir une quinzaine d'heures par semaine suivre des cours commerciaux en cours du soir.
Ce qui est aussi intéressant, c'est cette ouverture de l'enseignement à la formation continue, ce qu'on appelle la formation continue. C'est véritablement une ouverture de l'enseignement à ceux qui veulent s'instruire.
Totalement.
On se prend à rêver.
Mais hélas, les gens ne réagissent pas toujours très bien. Et en 1928, par exemple, pour le cours commercial, il n'y a que 6 élèves. 3 personnes de la ville et il y a des élèves de 3e année industrielle qui se disent que ça serait peut-être plus intéressant de travailler dans les bureaux que de travailler à la couture avec des salaires vraiment
misérables.
Et donc, à ce moment-là, la directrice est découragée. Et M. Lemoulec, qui était donc menuisier tapissier, qui était bénévole inspecteur de l'enseignement technique.
Bénévole,
c'était une fonction bénévole avant la guerre, avant 1944. M. Lemoulec rappelle à la directrice que les cours de masculin, avec Gilbert Courtois, sont en plein essor, certes, à ce moment-là, mais qu'ils ont eu beaucoup de mal à démarrer. Et
donc, ne vous désolez pas.
Ne vous désolez pas.
L'avenir est ouvert.
Voilà. Et l'inspecteur d'académie propose de faire une réunion d'information des mères de famille qui ont des jeunes filles en âge d'apprentissage.
Alors, voilà, l'ouverture, à la rencontre des familles, enfin c'est...
Oui, oui, ce qui m'a frappé dans toute cette étude, c'est le perpétuel remise en cause de choses déjà établies et il faut revenir toujours à la base, toujours retrouver les mêmes idées, essayer de faire passer les choses. Mais ça, c'est très, très difficile.
C'est l'art de l'éducation, il me semble, cet art de la répétition, si j'ose dire. Alors, regardons justement ce qui se passe, parce que vous me disiez, quand nous préparions l'émission, que finalement, dans les années 34-35, l'école avait beaucoup d'élèves.
Alors, en 1934, par exemple, ou en 1935, les élèves sont autour de 190 élèves. Mais l'effectif proprement dit, les classes, les trois années commerciales, les quatre années d'industriel, parce qu'il y a aussi des élèves qui restent en quatrième année pour se perfectionner. Alors ça, ce sont les élèves stables. Il y en a donc autour de 190, alors que les élèves au collège Rotrou seulement, c'est 267, ce qui est pas mal.
Oui.
Mais il y a de plus les élèves du cours complémentaire qui viennent en enseignement ménager. C'est donc une 45-50 élèves. Il y a les cours spéciaux. À ce moment-là, il y en a à peu près 30 personnes qui suivent les cours spéciaux. Et puis la nouvelle directrice, qui s'appelle Madame Élise Dumartin, qui a un caractère très trempé, qui a suscité des grandes admirations, mais aussi quelquefois des rejets, parce qu'elle était assez très enthousiaste. Et, enfin, quoi qu'il en soit, elle met en place un petit cours horticole. Il existait à l'EPS Rotrou depuis 1915. Elle met en place des cours infirmiers, c'est-à-dire, en fait, ce sont des secouristes un peu. Et puis, ou alors la préparation aux écoles d'infirmières réputées de Paris ou de Versailles. Et elle travaille en liaison avec une des deux composantes de la Croix-Rouge d'alors, qui s'appelle l'Union des femmes françaises. Et elle a comme professeur une infirmière qui s'appelle Mademoiselle Lesdos. Ledos, si on le prononce autrement. Mais si vous voulez, ça nous a pris beaucoup de temps, parce que cette histoire de cours infirmiers, on ne comprenait vraiment pas quelle était l'ampleur de ces cours. Donc on a été obligé de dépouiller les archives de la Croix-Rouge entre 1934, justement, 1933 et 1944.
Ce qui nous amène à vous poser la question, parce que ça va être la dernière question pour aujourd'hui. Vous avez... bien sûr, travailler sur les archives. Vous avez rencontré des gens. Racontez-nous un peu, pour finir, justement, les sources.
Alors, nos sources. À Dreux, aux archives municipales, il y a un dossier de 15 pages sur l'école pratique. Mais nous avons dépouillé toutes les délibérations municipales depuis 1914 ou 13. L'Écho républicain, voire d'autres journaux. Madame Charon, qui avait initié le groupe et qui a dû l'abandonner pour sans doute des raisons de santé, une équipe avait interviewé au moins 70 personnes, soit anciennes élèves, soit fils ou filles d'anciens élèves, qui ont eux-mêmes étaient anciens élèves, car il y a des véritables dynasties d'élèves qui sont passés par l'école pratique, puis le collège technique, puis le lycée technique.
Nous n'avons donc toute une collecte de souvenirs.
Oui, et nous sommes allés aux archives départementales, qui ne sont pas très très riches non plus. La seule chose que nous n'avons pas pu faire, c'est d'aller aux archives nationales, parce que, pour toutes sortes de raisons.
Eh bien, merci Marie-Thérèse Lecartier d'être venue parler à Radio Grand Ciel de l'origine de l'enseignement technique et voir comment il s'est développé à Dreux. Et puis, eh bien, dans nos prochaines émissions, nous poursuivrons cette histoire. Aux auditeurs, je dis bonne semaine à tous. Au revoir.